Bon, il me reste 10 minutes pour vous. 7 minutes et demie. Pour vous expliquer un petit peu tout ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, sachant que c'était. Il y avait des petites choses, mais c'était confus dans ma tête jusqu'à hier soir, on va dire tard. En fait, ce que je voudrais vous partager, ça s'appelle les contre-vérités. Et dans notre vie, il y a plein de contre-vérités. Dans le monde dans lequel on est, il y a plein de contre-vérités. Et le premier passage que le Seigneur m'a mis en esprit, c'est Jacques, au chapitre 2, au verset 19, 18 et 19. Quelqu'un dira l'un à la foi, l'autre les actes. Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes, je te montrerai ma foi par mes actes. Et c'est ce qui suit qui est important. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, c'est bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Et c'est là-dessus que le Seigneur a parlé à mon cœur. En fait, il y a deux choses cette semaine qui m'ont assez choquée, je dirais, hein, dans ce que j'ai vécu. La première chose, c'était un débat télévisé que j'ai suivi un petit peu, où il y avait deux philosophes qui s'exprimaient sur la véracité de Dieu ou l'absence de Dieu, avec deux points de vue radicalement opposés sur le câble. Hein, il y a plein de choses comme ça. Moi, je suis l'as du zapping et de temps en temps, je tombe sur des trucs intéressants. Pas toujours. Hein, il y a beaucoup de trucs à bazarder et puis de temps en temps, un truc intéressant. Et en fait, ces deux philosophes étaient aux antipodes, à première vue, par rapport à leur façon de voir Dieu. Le premier a écrit un ouvrage qui, entre guillemets, prouve ou tente à prouver l'impossibilité d'un Dieu créateur. Donc il a mis toute son énergie, toute sa pensée, à chercher à prouver que c'est pas possible. Un Dieu créateur, c'est pas possible, un Dieu tout court, c'est pas possible non plus. Toute forme de transcendance, ça lui est complètement étranger. En fait, il avait au moins le mérite d'être clair avec lui-même, c'est qu'en fait, c'est pas possible parce que de toute façon, lui, il l'a pas rencontré. Donc, on ne peut pas dire qu'il est malhonnête. Il est honnête avec lui-même. Il l'a pas rencontré. Il n'a pas de perception, on dirait, de la transcendance. Donc, pour lui, ça veut rien dire. Donc, il y avait ce monsieur qui exposait ses arguments, etc., qui était vraiment extrêmement matérialiste, hein, pour le coup, très terre-à-terre, et puis voilà. Et puis, il y en avait un deuxième, et c'était beaucoup plus subtil. Il a d'entrée de jeu attaqué notre écrivain athée, il a bombardé d'entrée de jeu, avec une sorte de petit mépris aussi pour sa pauvreté philosophique, en disant « c'est bien gentil ton athéisme, mais c'est quand même assez ras des pâquerettes, quoi. » Hein. Et lui, il déclarait qu'il voyait Dieu à chaque tournant de sa vie. Ah, j'ai dit « chouette, c'est bien, il voit Dieu à chaque tournant de sa vie. » Jusque-là, ça va. Mais ça se gâte vite, ça se gâte très vite. C'est quand il commence à lire un extrait de sa manière de percevoir Dieu. Et là, franchement, je me suis dit, ouïouïouï, mais qu'est-ce que c'est ? Prétendument, il perçoit Dieu dans tout, dans les relations avec les autres, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il vit, dans la nature, dans tout. C'est pas mal comme image, hein ? Et je vous le cite dans le texte, comme il a, lui, décrit sa manière de concevoir Dieu. Ce Dieu qui condamne Judas pour avoir dénoncé et vendu Jésus, son propre fils, mais sur son ordre. Waouh ! Je dis, Seigneur, c'est quoi ? Quelqu'un qui prétend te reconnaître dans tout, te voir dans tout, qu'est-ce qu'il a compris là ? Qu'est-ce qu'il a compris ? Ça m'a profondément choquée. Quand il y a une contre-vérité comme ça, en général, ça se tord à l'intérieur. On se dit, il y a un truc qui coince là, ça ne va pas. Il dit, Dieu condamne Judas, mais en fait, Judas n'a fait que les choses que Dieu lui a dites. Vous vous rendez compte ? Et si on lit l'histoire, on peut le percevoir comme ça. J'ai dit, Seigneur, montre-moi, parce que ça, je sens bien que c'est une contre-vérité. Et en fait, c'est Jésus qui m'a donné la réponse. C'est Jésus qui l'a donnée à mon esprit de manière très claire. Parce que sa parole nous dit « Personne ne prend ma vie. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Personne ne prend ma vie. » Ce n'est pas Dieu acheté en pâture Jésus, c'est lui qui s'est donné. C'est pas pareil. Donc on a en face de nous quelqu'un qui prétend admirer un Dieu tout-puissant, et en fait il connaît pas du tout. Il connaît pas du tout. Il a rien compris. Il a pas compris que le sacrifice c'était Jésus qui l'avait fait de plein gré. Et ça, ça m'a vraiment retourné, je dirais. Hein. Et je pense que c'est un avertissement pour les enfants de Dieu. Hein, n'ajoutez pas foi à tous les esprits, mais examinez, retenez ce qui est bon. Hein, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Je pense qu'il y a un vrai avertissement de la part de Dieu. Faites attention, de plus en plus, il y aura des contre-vérités. Ça commence bien, et puis après, c'est la planche à savon. Donc ça, c'est la première chose qui m'a vraiment interpellée. Je pense qu'il faut faire attention, parce qu'il y a des choses qui paraissent saines, mais qui sont à moitié saines, qui paraissent saintes et qui ne sont pas aussi saintes que ça. Et dans notre vie, c'est un peu pareil. Il y a des choses qui peuvent paraître bien, et puis qui ne sont pas si bien que ça, qui peuvent paraître saines, et puis même si ce n'est pas d'aussi franche contre-vérité, c'est quand même des contre-vérités. C'est quand même des choses que Dieu ne veut pas. Moi, je travaille comme beaucoup d'entre vous dans une entreprise où il y a des choses bien et des choses beaucoup moins bien. Il y a des prises de position où je me dis, bon sang, qu'est-ce que c'est pas juste. Oh ! Et je dis, Seigneur, j'aimerais savoir ce que tu penses de tout ça. J'aimerais que tu me dises comment je dois fonctionner par rapport à tout ça. Explique-moi un peu. Il y a de la contre-vérité partout. Il y a de la contre-vérité dans la société, dans les milieux professionnels, dans les milieux philosophiques, il y a de la contre-vérité. Comment, nous, enfants de Dieu, on peut trouver notre route au milieu de tout ça? C'est pas évident. Et le Seigneur m'a montré, donc on va peut-être pas tout lire, parce que sinon, je vous dis, vous allez être là jusqu'à 3h d'après-midi. Je souris parce que John, en fait, il a le même problème quand il prêche. On a tellement de choses, on se dit, on va jamais y arriver. C'est vrai, John? Donc, le premier passage, c'est dans Luc 14, versets 25 à 34. Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à son propre moi, il ne peut être mon disciple. Un peu plus loin, en effet, si quelqu'un veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle va lui coûter ? Et encore un peu plus loin, sans quoi il n'arrivera pas à terminer sa construction, après avoir posé les fondations, il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec. Et le verset 34 nous dit « Le sel est une bonne chose, mais s'il devient insipide, comment lui rendra-t-on sa saveur ?» Donc il y a pas mal de choses, hein. On ne peut pas tout lire, mais je vous invite à le creuser, hein, ce passage, c'était le début de la réponse de Jésus. Comment je vais faire? Comment je vais faire dans ma vie pour pas me fourvoyer dans ces contre-vérités? Renonce à tout, premier point. Même à toi-même et surtout à toi-même. C'est déjà un bon début. Fais pas ça bille en tête. Fonce pas bille en tête. Calcule la dépense. Évalue. Regarde un petit peu si tu es capable d'aller jusqu'au bout de ton entreprise. Fais ça de manière sérieuse, parce que c'est sérieux, la vie avec Dieu. Tu vas devenir ridicule si tu n'arrives pas à finir. N'en meurs pas du ridicule, mais enfin, quand c'est spirituel, si on en meurt, c'est embêtant. Fais en sorte de ne pas devenir un sel qui a de goût pour personne, et même pas pour ta propre vie. Parce qu'un sel insipide, ça n'a pas de goût pour les gens autour, ça n'a pas de goût dans ta vie non plus. Et c'est pas marrant. Je sais pas pour vous, mais moi je suis très salée, donc je ne pourrais pas. Donc ma question, j'ai dit, Seigneur, d'accord, tu me montres. Là, il y a des prérequis, je dirais, hein, il y a des points de départ. comment je vais faire maintenant pour rester fidèle dans un monde infidèle ? Et là, le Seigneur m'a dirigé dans Luc chapitre 16. C'est Dieu et l'argent. J'ai dit, tiens, comment ça se fait qu'il me parle de ça, Dieu et l'argent ? Et on voit là, donc je vous invite à le relire pour vous, hein, on voit là quelqu'un qui gaspille des biens qui ne lui appartiennent pas, qui dilapide, qui fait un peu n'importe quoi avec les finances. Imaginez qu'on aurait ça ici, au secours, hein, Jacques. On n'en sortirait pas. Hein. Et, mais qu'est-ce que dit Dieu par rapport à ça ? Et ça, ça m'a interpellée. Au verset 8... Le maître admira l'habileté avec laquelle ce gérant malhonnête s'y était pris. Tu dois 40, Marc 20. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu es d'accord ? Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Et c'est vraiment quelque chose qui m'a travaillé depuis longtemps, je dirais. Hein. Il doit 40, il marque 20, et puis on trouve ça bien. C'est curieux quand même. C'est curieux, tu trouves pas ? Moi, ça m'a vraiment... Je dis, là, il faut que tu m'expliques parce que je comprends pas tout. Ça colle pas avec l'image que j'ai d'un Dieu juste et parfait. Est-ce que Dieu salue la malhonnêteté là-dedans ? La réponse, elle est au verset 15. Ce qui est en haute estime parmi les hommes, Dieu l'a en horreur. Ce qui est en haute estime parmi les hommes, Dieu l'a en horreur. C'est clair ? Ce qui est approuvé des hommes, Dieu déteste. La malhonnêteté, il est en horreur. Donc il n'est pas question de revenir sur la justice hein, de Dieu, c'est clair. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, parce qu'il faut revenir quand même, hein, il admire l'habileté, il admire la prudence. Il dit, mes enfants sont moins prudents dans leur gestion de leur vie, des biens de ce monde, sont moins prudents que des gens qui ne m'appartiennent pas. Donc la réponse de Dieu, c'est soyez prudents, faites attention. Ne vous mettez pas déjà dans des situations dont vous n'allez pas vous en sortir. Parce que ça, c'est très facile, et puis on tombe tous là-dedans. Hein. De temps en temps, on se met dans des situations tellement impossibles, on ne sait plus comment voir le bout. Agissez avec prudence dans toute votre tractation. Évitez de faire le religieux. Hein, en patois de Canaan, on dirait le pharisien, de dire oh, moi je suis au-dessus de la mêlée, ça ne va pas m'arriver, tout va bien, je me mets jamais dans des situations conflictuelles. C'est pas la peine de vous y mettre, elles vont arriver toutes seules. Hein. C'est pas la peine. On n'est pas au-dessus de la mêlée, on est dans la mêlée. Et plus ça va venir, et plus on sera dedans, et plus il va falloir essayer de dire, Seigneur, tu veux quoi ? Qu'est-ce que tu cherches pour ma vie ? Qu'est-ce que tu exiges des enfants de lumière ? Dieu ne nous demande pas d'être en dehors de la mêlée, mais prudent dans nos rapports avec les autres. Ça, c'est le premier point. Et ce qu'il a salué là, c'est pas autre chose. C'est de la prudence. Il a géré, il s'est planté au début, puis il était fidèle à lui-même, hein, comme mon philosophe a été tout à l'heure. Hein, il était dans la continuité de ce qu'il pensait. Mais à nous, enfants de Dieu, la suite nous dit autre chose. Si vous regardez les versets qui suivent, « Et moi, je vous déclare. » Et souvent, quand la Bible nous dit « Et moi, je vous déclare », c'est qu'il y a quelque chose avant que Dieu approuve pas. Il vous a été dit, mais moi je vous dis. Il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, aimez en tout temps. Et là il dit, mais moi je vous déclare, si vous avez des richesses entachées d'injustice, utilisez-les pour vous faire des amis. Ça aussi c'est curieux quand même, c'est curieux. Qu'est-ce que nous dit Dieu là ? Ça n'a pas été simple à comprendre pour moi, honnêtement. Hein, je dis Seigneur, mais qu'est-ce que tu nous dis là ? Je crois qu'il faut aller un peu plus loin pour comprendre. Si quelqu'un est fidèle au verset 10, dans les petites choses, on peut lui faire confiance pour ce qui est important. Celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, qui vous confiera les véritables ? Qui vous confiera les véritables ? Si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'autrui, qui vous donnera ce qui vous est personnellement destiné ? Donc il y a deux choses, je pense, que Dieu nous dit. Sois prudent, fais attention, ne te mets pas dans des situations impossibles, hein, déjà. Sois fidèle, même si ça ne te semble pas juste, même si ça te semble, mais vraiment, tu te dis, mais c'est quoi ce truc au boulot, c'est quoi cette gestion ? Sois fidèle. Brille comme un enfant de lumière. Parce que ça, c'est ce qu'on attend de nous à l'extérieur. On n'attend pas des paroles. On le voit, les philosophes, à longueur de chaîne du câble, nous assassinent de paroles. Et j'utilise le terme assassiner à dessein. Nous assassinent de paroles dans lesquelles il faut que nous, on trouve notre chemin quand même. Où il faut qu'on reconnaisse ce qui est de la vérité, ce qui est de la contre-vérité. Le Seigneur dit, il y a une clé là. Prudence dans tes rapports avec le monde qui t'entoure. Fidélité. Fidélité à ce que j'attends de toi. Et je pense que si on a ces deux choses là, on peut avancer. C'est important. J'ai lu... Un petit passage qui parle de saint François d'Assise, très intéressant. Saint François d'Assise, il était parti prêcher avec un jeune novice. Donc ils sont allés sur un marché, parce que c'est quand même par définition un endroit où il y a pas mal de monde. Et toute la journée, parce que c'est des marchés qui à l'époque duraient toute la journée, ils se contentèrent de parler avec les vendeurs et les passants dans la rue, jusqu'au soir. En rentrant au monastère, le jeune novice dit à saint François, « Mais je croyais que nous devions prêcher à ces gens. » Saint François répondit, « Mais c'est ce que nous avons fait toute la journée. Les gens nous ont écoutés, et plus important, ont observé nos attitudes et notre comportement. » C'était là notre message. Écoutez. Mettez votre honneur à travailler honnêtement et les gens qui ne sont pas croyants vous respecteront. Et ça, vous retrouvez dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, versets 11 et 12. Nous vous invitons, frères, à faire toujours plus de progrès en mettant votre point d'honneur à vivre dans la paix, à gagner votre argent par votre travail. Une telle conduite vous gagnera le respect de ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu. Ça, c'est le témoignage par les actes. Il n'y a pas grand-chose à dire. Cela veut dire que notre marche quotidienne doit être accordée à nos paroles. Nous devons être fidèles à notre mari, bien sûr, à notre femme. Nous devons être honnêtes dans nos déclarations. Déclaration d'impôt, on vient de la faire. Nous devons payer nos factures à temps. Nous devons être honnêtes avec nos employeurs ou avec nos employés. Pierre a écrit, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Affirmer que vous êtes chrétien est une chose, mais que les gens qui vous côtoient soient d'accord et l'affirment aussi est 100 fois plus important. Ça m'a vraiment beaucoup touchée, quoi. 100 fois plus important, qu'est-ce que je fais passer par ma manière d'être, par ce que je vis dans mon boulot, par ma manière de faire mon boulot. Si je dis, de toute façon, c'est tout des malhonnêtes, allons-y, on ne va pas s'en faire pour eux, et puis je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Ça va loin, hein, c'est très exigeant. Mais c'est très interpellant aussi. Être honnête et briller, sachant qu'autour c'est noir, parce que de toute façon c'est noir. Mais nous, le Seigneur nous demande de briller comme des lumières, là où on est, à notre boulot, et surtout quand c'est pas drôle. Donc, je vous invite à relire pour vous le chapitre 2 de Jacques, qui parle des riches et des pauvres, de ne pas faire exception de personne, qui parle de la foi et des œuvres, et de la manière de mettre, je dirais, la main à la pâte, hein, d'être bien pratique sur le plan de ce que le Seigneur veut de nos vies. Face à des situations qui semblent profondément injustes, ma volonté, c'est de faire les choses pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu, parce que c'est lui qui a un œil sur moi. Et le Seigneur me disait hier soir, mais j'ai un œil sur toi. C'est pas un œil inquisiteur, pas du tout, mais j'ai un œil sur toi. J'ai constamment un œil sur toi. Mais c'est quoi ? En fait, c'est le regard d'un père. C'est le regard d'un père qui dit, vous avez déjà vu quand on avait des gamins petits et qu'il y avait des creux, on sautait tout de suite sur nos gamins pour éviter qu'ils tombent. Et bien là, c'est ça. On a un Dieu qui a un œil sur nous. Il nous laisse une marge de manœuvre parce qu'il nous fait confiance. Et ça, il nous l'a clairement dit ici, dans cette église. Je vous fais confiance. Mais il a un œil sur nous. Si tu fais les choses, non pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu, ça fera une sacrée différence. Si tu payes tes impôts, on n'aime pas. Parce qu'il faut, bien évidemment, parce qu'on n'a pas envie de se prendre les 10%. Mais parce que Dieu nous le demande, parce qu'il dit « soyez soumis aux autorités ». Si on paye nos factures, parce que Dieu nous le demande, parce qu'il faut être soumis aux autorités. Si on paye nos 90 euros de procès, parce que Dieu nous le demande, je parle pour moi, hein. Moi un point de permis, parce que Dieu nous le demande, et puis voilà. C'est pas pour plaire aux hommes, c'est pas parce qu'on a peur, c'est pour plaire à Dieu. Donc on revient à quelque chose d'important, c'est quelles sont mes motivations quand je fais les choses ? Quelles sont mes motivations ? Au boulot, quelles sont mes motivations face à ces gens qui sont franchement d'une injustice flagrante, où j'ai envie de les envoyer balader parce qu'ils exagèrent. Dieu dit, brillez, brillez comme des flambeaux dans ce monde qui manque cruellement de lumière. Faites les choses pour plaire à Dieu et pas pour plaire aux hommes. Il y a des jours, ça va. Il y a des jours, franchement, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me pèse. Ça me pèse. Mais au fond de moi, il y a quelque chose qui brûle. J'ai tellement, tellement envie de lui plaire. C'est ça. La différence, elle est là. Et je rejoins tout à fait ce que John nous disait tout à l'heure, que c'est pas lourd quand ça brûle comme ça à l'intérieur. C'est pas lourd. Ça devient, je dirais, pas une seconde nature, notre vraie nature. Donc, qu'est-ce que je vais faire par rapport à toutes les situations qui me pèsent ? Je ne vais pas maudire, je ne vais pas médire, je ne vais pas mentir non plus, en déclarant juste ce qui n'est pas juste, ce ne serait pas normal. Mais je veux te remettre, Seigneur, ces situations pesantes. Faire les choses pour te plaire à toi. Me soumettre à des patrons injustes, non pour leur plaire à eux, mais parce que tu le dis, pour faire ta volonté. Ne pas accepter en moi de la dureté de cœur qui dirait « je m'en fous ». Dieu, il attend des enfants enflammés. Excusez-moi, hein, mais pas des « je m'en foutistes ». C'est un peu violent hein, ce que je vous dis là. Hein? Il attend des enfants enflammés. Ne pas me complaire dans ma propre justice, mais compter sur la sienne. Voilà un petit peu résumé ce que j'avais à vous partager, très résumé. On pourrait dire beaucoup, beaucoup plus de choses là-dessus. Soyez prudents, n'acceptez pas toutes les contre-vérités. Pensez pas que parce que Dieu dit « il est prudent, tout ce qu'il fait, c'est bien », non, non. Mais il dit, mes enfants, vous, soyez prudents et mettez quelque chose de plus que la prudence. Soyez fidèles, fidèles à ce que je vous enseigne, fidèles à ce que j'attends de vous. Parce que j'ai toujours un œil sur vous, j'ai un œil bienveillant sur vous. Ne vous gargarisez pas de votre propre justice en disant « je suis au-dessus de la mêlée, ça ne va jamais m'arriver ». Si, ça va vous arriver, ça m'arrive, moi. Je ne pense pas être quelqu'un de différent des autres. Si, les situations conflictuelles, ce n'est pas la peine de les chercher, elles arrivent toutes seules. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais le Seigneur dit « briller comme des lumières » parce que ce monde en a cruellement besoin. Briller, briller, briller. Montre-moi ta foi sans tes œuvres. Je te montrerai ma foi par mes œuvres. Je vous invite vraiment à relire tout ce chapitre de Jacques, qui nous dit aussi que ceux qui sont sans pitié, Dieu ne pourra pas agir autrement parce que c'est un Dieu juste. Si tu es sans pitié, il ne faut pas que tu t'attendes à ce que Dieu il agisse autrement, c'est un Dieu juste. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup, beaucoup, et quand le Seigneur nous enseigne comme ça, je me dis, mais comment je vais faire le tri pour dire tout ça, ça fait beaucoup. Le Seigneur vous donnera aux uns et aux autres ce qui est important pour vous, ce sur quoi il veut mettre l'accent dans votre vie à vous. Moi, je vous redis, hein, prudence dans vos rapports avec l'extérieur, avec votre vie tout court, fidélité à ce que Dieu attend de vous, fidélité. C'est pas un petit mot, ça. Hein. C'est un mot qui fait vivre. C'est pas rien. Et pour terminer, je voudrais reprendre quelques petites phrases que j'ai trouvées aussi, hein, de Bob Gass, que j'aime bien. Si vous considérez que vous pouvez facilement remplir la mission que Dieu vous a confiée, donc si vous considérez que vous pourrez facilement remplir la mission que Dieu vous a confiée, c'est-à-dire de vous-même, hein, il y a de fortes chances pour que cette mission ne soit pas divine. Déjà, ça jette un foie. Les missions divines sont à la dimension de Dieu. Vous ne pourrez jamais les accomplir tout seul. Par contre, et John nous l'a redit ce matin, quand ça vient de Dieu et quand on se met sous l'onction de Dieu, ça devient facile. Si tu penses que tu vas y arriver tout seul, là déjà, tu es sur la planche à savon. Si tu comptes sur Dieu, là ça va aller. Et il termine en disant, Dieu n'appelle jamais quelqu'un à travailler pour lui. Dieu n'appelle jamais quelqu'un à travailler pour lui. C'est intéressant, hein? Mais plutôt à travailler à ses côtés. Et la garantie du succès, elle est là. C'est pas « je travaille pour Dieu », c'est « il est présent partout, à chaque moment, et c'est pour ça que c'est facile, et c'est pour ça que j'y arrive, parce que de moi-même, c'est pas possible. » Voilà ce que j'avais à vous partager en peu de mots ce matin. J'ai fait le plus court possible. Et donc, je vous invite à relire tous ces passages. Donc, Luc 14, versets 25 à 34. Luc 16, à partir du verset 8 jusqu'au verset 15. Il y avait aussi Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens. Je vais vous le retrouver. Parce qu'on n'a pas le temps de tout lire là, et c'est dommage. Qui nous donne des poteaux indicateurs, hein, pour notre vie. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 11 et 12, et tout le chapitre de Jacques, chapitre 2. Tout Jacques 2, hein, sur notre manière de nous conduire. Voilà, je vous livre ça pour aujourd'hui. En vous souhaitant une bonne journée.
Je vous invite à vous lever.